Horizon, le podcast de Lucans qui présente les 10 chantiers de l'avenant de la COGE 2021. Pour introduire ce podcast, nous retrouvons Rénal Lemay, directeur général de Lucans. Bonjour Monsieur Lemay, pourquoi ce choix d'un avenant plutôt qu'une nouvelle COGE ?
Cet avenant doit nous permettre de faire le lien entre deux COGE. Il nous permettra de boucler nos objectifs 2018-2020 et d'explorer de nouvelles pistes qui seront intégrées à la COGE 2022-2026. Ce choix de différer la COGE à 2022 permet de se caler sur le calendrier des branches qui négocieront et signeront leur COGE en 2023. Sera ainsi possible d'intégrer dans la COGE des différentes branches les objectifs transversaux qui seront dans la COGE de Lucans.
Sur cet avenant de l'année 2021, quelles sont les grandes orientations poursuivies pour l'activité de Lucans ?
Alors cet avenant s'inscrit naturellement dans le cadre des orientations de notre COGE précédente, qu'il vient prolonger, mais il posera aussi les jalons pour la future COGE. Cet avenant devrait intégrer quelques éléments d'actualité, la possible future réforme des retraites ou la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale. Plus globalement, notre enjeu sur l'ensemble de nos activités sera de consolider nos offres de services avec des modalités d'approche toujours plus personnalisées et en lien avec les préoccupations des organismes.
Vous écoutez Horizon, le podcast de Lucans, sur les 10 chantiers pour demain. Bonjour Françoise Picot. Je vous laisse vous présenter en quelques phrases, s'il vous plaît.
Bien, je suis Françoise Picot, directrice de la formation professionnelle à Lucans. Je pilote donc la direction de la formation professionnelle avec 18 collaborateurs, experts divers, hein, de chef de projet allant du chef de projet à attaché direction ou contrôleur de gestion.
Et votre objectif est de mettre en œuvre la politique de formation professionnelle de la sécurité sociale. C'est bien ça ?
Tout à fait.
Par quoi ça passe concrètement ?
Alors concrètement, plusieurs thématiques à porter avec les équipes. Tout d'abord, développer une offre de formation interbranche qui accompagne les besoins des organismes en développement de qualifications, de compétences. On doit répondre à tous les enjeux de transformation des entreprises. Nous sommes, les organismes de Sécu sont des entreprises. Donc transformation des métiers, des organisations, transformation technologique, écologique, sociétale, évolution réglementaire également. C'est intéressant de citer les métiers que sont la relation de service, le management, les ressources humaines, qui sont en permanence réinterrogés. Et notre rôle à nous, c'est effectivement de travailler l'ingénierie de la formation, et nous sommes commanditaires auprès des organismes de formation en lien direct, bien sûr, avec les caisses nationales de chacun des réseaux.
Et vous êtes aussi un organisme, une autorité de certification.
Oui, complètement. La deuxième préoccupation est effectivement le renforcement de cette certification professionnelle, puisque nous sommes autorités de certification. Nous travaillons étroitement avec la CPNEFP, qui est une instance paritaire, pour définir cette politique. Alors actuellement, nous portons 7 CQP et nous avons 2 petits nouveaux qui arrivent, donc 2 nouveaux parcours d'ici la fin de l'année, dont nous allons déclencher la démarche.
Autre point important, vous pilotez aussi toute une recherche d'optimisation des fonds, c'est ça, pour les organismes ?
Oui, alors c'est une de, alors si on les chiffre, hein, c'est une de nos troisièmes priorités, c'est le financement de la formation professionnelle, la gestion efficiente des fonds. S'ajoute à cela la mission de tutelle de notre organisme de formation professionnelle, l'I4.10. Dernier point, donc nous accompagnons tout organisme dans ses interrogations en matière de droit de la formation professionnelle. Il est vrai que nous avons à peu près 1000 demandes par an. Notre volonté est non seulement d'y répondre, mais également d'anticiper les difficultés d'interprétation que chaque organisme a dans un contexte juridique qui est florissant, mais qui s'est vu amplifié avec la crise sanitaire. Alors, nous réalisons une veille juridique, nous développons des outils d'aide, lettres d'information, webinaires, le mini-site sur le portail, des facs, par exemple.
Qu'est-ce qu'on doit retenir des principales avancées de la COGE 2017-2020 ?
Alors, deux évolutions notables sur cette période. La première, une réussite de la transformation, dans la transformation numérique. Donc, la crise sanitaire, tout dernièrement, a particulièrement mis en évidence les liens étroits entre le digital, les capacités des organismes à s'adapter et à garantir une continuité d'activité. Alors, nous avions intérêt propice pour y répondre, puisque on avait déjà développé la transformation digitale depuis 2017, avec une augmentation notable des dispositifs multimodaux et des dispositifs à 100% à distance. Alors, ce qu'on peut ajouter également, c'est que le régime général se dote d'un outil d'acculturation, de diagnostic des compétences numériques pour les collaborateurs du régime général.
Qu'est-ce que vous appelez un outil d'acculturation ?
Alors, c'est tout simplement une solution, plateforme en ligne, qui permet de diagnostiquer les compétences des salariés et de les orienter sur un développement de formation ultérieure pour être en phase avec le besoin de son poste de travail.
D'accord. Et une autre expérimentation a concerné l'accompagnement collectif à la VAE, la validation des acquis de l'expérience, je crois, qui permet aussi des mobilités et des transitions professionnelles, c'est ça ?
Oui, alors on rejoint ici le deuxième sujet, puisque vous interrogiez sur les avancées de la COJ. C'est vraiment le deuxième sujet, effectivement. C'est toutes les avancées sur l'intégration des salariés, sur les transitions professionnelles et les mobilités. Et effectivement, alors outre la politique de certification dont on a parlé avec les 2500 CQP certifiés, c'est aussi cette VAE, validation de l'acquis de l'expérience, qui permet aux salariés de valider ces nouvelles voies de certification, de valider l'expérience professionnelle.
Pour la COJ 2021, quels sont vos chantiers et avec quels enjeux ?
Alors, sur 2021, nous avons trois sujets majeurs. La politique de développement des compétences, avec un focus sur l'alternance. Le financement de la formation professionnelle et son optimisation. Et puis, l'évolution de l'organisme de formation professionnelle, l'Institut 4.10. L'actualité a guidé fortement le choix de ces orientations arrêtées pour 2021, avec la réforme systémique de la formation professionnelle, qui est la loi à venir 2018, et l'impact de la crise sanitaire avec le plan de relance gouvernemental.
Je reviens un tout petit peu en arrière pour l'alternance qui m'intéresse en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, bien sûr. Alors, ce sujet est majeur parce que l'institution entend développer une politique attractive en matière d'offres de formation professionnelle. Donc, elle va travailler le terrain de l'alternance et s'interroger sur l'apprentissage. Faut-il le renforcer ? Et également, si c'était le cas, comment nous l'articulons au mieux avec les contrats de professionnalisation et la promotion par l'alternance ?
Sur le point du financement, donc un tout autre point, la refonte des financements de la formation professionnelle a été la grande actualité dans votre secteur, je crois. Cette refonte, c'est donc l'objet de votre second chantier.
Oui, bien, oui, tout à fait. Le deuxième sujet fort pour 2021 est directement lié à l'impact récessif de la réforme 2018 qui joue sur nos financements et qui nous conduit à garantir et mettre toutes les conditions en place pour renforcer les fonds mutualisés conventionnels. Donc, nous avons une enveloppe actuelle de 11 millions d'euros et nous devrons travailler précisément sur la définition des priorités de financement pour 2021 et puis déterminer également l'offre de formation interbranche. Tout ça grâce à une démarche participative avec les branches, les différentes branches et notamment les caisses nationales.
Et vous aviez un troisième chantier ?
Oui, peut-être pour ne pas être complètement... rester dans une certaine précision pour le deuxième point, préciser que nous allons travailler la politique d'abondement du CPF. Il va nous falloir définir une politique de co-construction. C'est en tout cas demandé par le nouvel accord de formation professionnelle et ça vient compléter nos orientations professionnelles. Alors, vous me posez la question sur le troisième chantier, effectivement. Troisième chantier vise les recommandations issues d'une mission qui est actuellement en cours sur l'évolution de notre organisme de formation professionnelle. Tout ceci en cohérence avec les orientations gouvernementales du comité interministériel de transformation de la fonction publique.
Pour conclure, si vous aviez un message à faire passer aujourd'hui, ce serait quoi ?
grand chantier et grand dynamisme sur la formation professionnelle.
Merci beaucoup Françoise Picot.
Merci à vous.
Ce podcast touche bientôt à sa fin et pour conclure, je voulais revenir avec Sébastien Barré, directeur délégué de Lucans, sur la COGE écoulée. Sébastien, comment Lucans s'est-elle transformée en interne ?
Alors Lucans s'est transformé en interne déjà sous l'impulsion d'une politique RH dynamique, ambitieuse. On a travaillé sur des sujets essentiels qui sont l'égalité homme-femme, la conciliation vie familiale-vie professionnelle, notamment en développant le télétravail à travers un accord de 2018. Et ça se traduit dans une satisfaction des salariés sur leur emploi à Lucans, qui a progressé de 10% par rapport à l'enquête précédente que nous avions faite. La période a été marquée par un deuxième chantier majeur, c'était celui du déménagement. Donc ça a été un projet très impliquant pour l'ensemble des directions de Lucans, pour l'ensemble des salariés. Aujourd'hui, on est fiers du résultat. On est dans un bâtiment moderne, lumineux, sobre énergétiquement, qui favorise le travail collaboratif et le décloisonnement. Et je pense qu'un an après, on se l'est bien approprié. Troisième chantier que je pourrais évoquer, c'est celui du numérique. Là aussi, la période récente, elle a été marquée par l'appropriation qu'on a tous fait d'outils numériques visant à la tenue de réunions en interne, à distance avec les partenaires. Et c'était un fait marquant de la période. Et la preuve qu'on se l'est bien approprié, c'est que nous sommes aujourd'hui dans le constat que la bascule dans le confinement, elle s'est faite de façon relativement rapide et qu'on a retrouvé très vite nos habitudes de travail et notre niveau de performance.
Trois grands chantiers alors, et maintenant, quelle perspective vous pourriez donner à l'aune de la nouvelle COGE ?
À l'aune de la nouvelle COGE sur les fonctionnements internes, je pense que ce qui va marquer la période, ça va être la capitalisation qu'on va faire de la période que nous traversons actuellement, de crise sanitaire. Les modes de management ont évolué, le personnel a beaucoup plus télétravaillé, on a encore progressé dans le maniement des outils de collaboration et de travail à distance. Donc on a pris de l'avance sur ces sujets-là. Et je pense que l'enjeu de la prochaine période, c'est de conserver cette avance.
Ce n'est pas tous les jours qu'on a un micro sous la bouche. Alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire pour profiter de cette occasion ?
Je voudrais dire, en guise de conclusion, que je remercie l'ensemble des salariés de Lucans pour le travail accompli sur ces dernières années, pour leur capacité d'adaptation également. On a été collectivement au rendez-vous des objectifs que nous étions fixés. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'on sera dans la même dynamique dans les prochaines années.
Merci d'avoir écouté Horizon, le podcast de Lucans sur les 10 chantiers pour demain.